Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Toujours dans nos lectures en liberté et toujours pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. L'avant-jour d'un matin plus clair et plus frais que les autres, Aedius attela son wagon. Son plan était de se rendre à Bayou-Népiquet, soi-disant pour s'approvisionner chez le grosseur, acheter de l'épicerie fine, du sel, un peu de piment enragé, 2-3 babioles du superflu qui manquaient aux femmes pour la cuisinerie et aussi du fil Dalton qui sert toujours pour amarrer les balles de paille ou refaire à neuf le parquage des cochons. Il avait proposé à sa petite fille Azeline de l'emmener avec lui. La Gosseline s'était pas fait prier. Le temps d'aller porter à la pacanière son message du jour, un cruchon de moonshine et 6 œufs de basse-cour, elle avait passé sa robe à volant, s'était mistrifrisée comme il faut, un grand saut pour monter sur le chariot et après, hop, les fesses sur la banquette du carrosse à 2 sites, elle s'était faufilée auprès de son dad. Le vent du whip avait claqué entre les oreilles du cheval noir. Tiens bon, hurrah, comme un jour de mardi gras, le père, la fille, s'en était parti au vrai grand trot. Le charroi rebondissait sur la caillasse, prenait tout le milieu des manches remplies de rainures et de crevasses. On aurait dit que Raquin retrouvait dans la montée de l'automne l'esprit de ses 20 ans. Claquait la chicadence pour relancer la rosse, tendait le bridon sur la bouche du vieux cheval et l'excitait chaque fois qu'il faisait mine de ralentir le train. Plus secoué qu'une paire de barils, les passagers traînaient derrière eux toute la poudre du chemin et progressaient dans un sérail assourdissant. Au passage d'un grand trou, le chariot versa même si fort que, cul par-dessus tête, la jeune fille glissa hors de la banquette. « Pauvre petite poule maigre qui se vanne dans la poussière !» s'apitoya Raquin en riant après elle. « Je suis tombé sous mon gogo, je m'en fais bien mal au dos !» chantonna Azeline en pleurnichant comme un bébé. Il la hissa bac sur son siège et « yip et yap !» le fouet siffla à nouveau dans les airs. Azeline s'éclatait de voir son dad en si bon humour. Lui, le vieux bougue, tchombossait les guides et de temps à autre se détournait de la route pour la dévisager avec un regard couvant. « Tiens !» remarqua-t-il soudain en reluquant son joli profil. « Mon jeune épi de maïs s'est fait toute belle. Irait-elle pas voir un amoureux ?» Courroucée, Azeline haussa les épaules et fixa son père, d'une façon si pénétrante qu'il fut incapable d'interpréter la façon aiguë de son regard. Hé, babe, taquina-t-il, est-ce que par hasard tu serais encore après jongler à ce grand pandard de Voici Smith ? Elle ne lui répondit même pas. Pauvre ignorant. Comment pouvait-il poser une question pareille alors que la vie entière de sa proche fille avait basculé par sa faute? Alors qu'elle ne lui demandait plus jamais de la conduire à la messe? Alors qu'elle ne respirait plus, qu'elle ne mangeait plus, qu'elle ne cahotait plus qu'en pensant à son cher amant de cœur tapi au fond des bois, au protégé de son papa, justement à cet homme dont les yeux si sauvages la chaviraient chaque fois qu'il passait sur elle. Elle fixa de nouveau son père, se demandant si le long moment était venu de lui dévoiler ce qu'elle connaissait de son secret, s'il n'était pas judicieux de lui faire part de ses propres sentiments à l'égard du fugitif. mais le vieux n'était plus au rendez-vous de la connivence. Il jouait s'il, là qui garde son attention rivée sur la route. Azeline se réfugia dans la maison de sa tête. Elle commença une tournée dans le creux de ses pensées. Sûre qu'elle était tombée en amour pour Crowley. N'empêche, si t'as soif, faut pas rêver à un verre d'eau. Le moment venu, la gourmande voulait pour elle toute l'eau du lac. Là-dessus, son instinct de femme était infaillible. Il lui prescrivit donc le silence à propos de ce qu'elle savait, et ce faisant l'aiguilla vers autant de duplicité que l'eût guidé plus de calcul. Après tout, voici Smith, vaut mieux qu'une jambe écrasée, soupira la belle enfant. Même si sa retardation de parole ne m'enchante pas, autant un bec dans mon lit que pas de mari du tout. Pour le compte, c'est le vieux bougre qui resta aussi simple que s'il avait reçu une bûchée sur la tête. Il n'en croyait pas ses oreilles. Quoi ? La rebelle rendait les armes alors que c'était lui, son vieux dad, qui était passé dans son camp. « Voici Smith, je m'en sacre » jura-t-il en crachant sur la route. « On dirait une bique éduquée qui bredouille son alphabet. » « Je connais, » dit la petite en baissant les yeux avec une feinte résignation. « Mais si mon poupa me trouve pas de meilleure partie d'ici la prochaine récolte, la mort dans l'âme, je me résoudrai à le marier. » Popraquin paraissait de plus en plus affouli par la manière de ses réponses. Il chercha son crâne sous la paille de son chapeau afin de le gratter une bonne fois. « Tonnerre m'écrase !» s'écria-t-il. « Je suis pas fou d'une grande éducation pour les filles, mais avant de te précipiter au cou d'un gars jeune qui est déjà aussi mort qu'un bois sec, peut-être que tu ferais aussi bien de practice un peu de piano avec ta tante Nadée, hein ? Qu'en penses-tu ? La musique, ça sert toujours. Et puis ça gagne du temps. » Sur ces paroles-là, Azeline sut qu'elle avait manche faite. Fine perle, elle se détourna pour ne pas avoir à répondre du demi-sourire si confiant à l'avenir qui lui venait naturellement aux lèvres. « Comme tu veux, dad, c'est toi qui décides. » Le vieux bougre relança son cheval qui profitait de l'affaire pour musarder. « Ah, bien, fifille, » dit-il mystérieusement. « Le destin, ça se connaît. » Si ça se trouve, bientôt se présentera une personne qu'on n'attendait pas. Et même si c'est pas quelqu'un de notre monde, il faudra pas s'étonner. Ce qui compte, c'est juste de mettre ensemble les âmes avec les corps. Le reste, c'est de l'air qui passe autour. Du vent sur les moulins. Mon, je crois à une grande famille humaine. En vie et en longueur. Ainsi parla Pop Raquin. Le chemin s'était mis à monter. Tinoir venait d'avoir un frisson d'échine. Indifférent à son changement d'allure, le père, la fille étaient après jonglés chacun dans leur coin. Edius conspirait pour le bien de sa progéniture et la petite se promettait de profiter de sa visite au village pour essayer de savoir pourquoi le grand blond se terrait au fond des bois. Les deux taiseux firent de la sorte encore plusieurs milles qui les conduisirent alentour de Bayoun et Piquet. Comme on ne lui fouettait plus la croupe, Tinoir avait choisi un trot raisonnable. Passé la pancarte qui annonçait 1704 âmes, Pop Raquin sembla se réveiller de ses songes. Emballé dans son soute noire, le vieux crocodile soudain se redressa et improuva le bouffant de sa cravate par-dessus sa chemise. Il avança son menton sous son nez, signe d'une intense concentration, et demanda à sa fille de baisser les yeux en entrant dans la rue principale du village. Qu'elle ait pas l'air de provoquer les traîneurs qui bervochaient devant le café-bar chez Babineau. Ainsi fut fait. Mais autant cacher Azeline derrière une liane de mirliton. Une battelée de mauvais coqs les avait vus s'avancer et la silhouette fine et délurée de la pichouette ne passa pas inaperçue aux yeux de la poulaille. Parmi les plus enragés, Edius reconnut le carré des frères Pinglette, ceux-là même à qui il avait trois fois refusé une entrevue avec sa fille. Rien d'étonnant après cela, les bras rangés sous les épaules comme des ailes de canard, que les quatre splouks se mettent en rang de basse-cour pour glousser des jalousies sur leur passage. Même un d'eux, peut-être bien Pierre, plus effronté que les autres, se mit à tchac-tchac et cadencer avec sa botte sur les planches. Il y a là d'un petit couplet qui chantait comme ça. « Haslin a perdu sa rosette, pas loin de Canicric, et wick et tic et tic, et puis regarde ici et regarde là-bas, mais elle a perdu sa rosette de l'autre bord du Canicric. » Crédieu la fureur, ça fait Popraquin à lever sa babiche sur Pierre, cet enfant de garce. Même s'il n'aurait pas pesé plus lourd dans une bataille de mâle qu'un oiseau colibri, le vieux était prêt à frapper pour l'honneur, à saquer un coup de poing sur la gueule du Bonnaret, à lui faire sauter les dents de devant. Haslin l'a retenu de faire cette bêtise. Ils ont continué leur route. « Ah, mais comme ça, tout de même, c'est un peu fort, » a dit le vieux bougue tout énervé. « Jamais de mon vivant, un carancroc noir va marier une belle oie farouche. » Sous les colibets et du Sraquin, sa petite fille, il s'éloignait comme une glorieuse armée. Après la place de l'église, le monde était meilleur. Ainsi passèrent-ils devant Thomas Aucquigny, un gros chien du pays, un vaillant jeune homme qui valait 7 millions de piastres par son père et se pavanait au bras d'une belle mule créole, très fière et très coquette. « Ça, c'est Miss Léola, » dit Edius, en ôtant son chapeau, un grand plaisir de l'œil. Émerveillé par l'élégance de cette personne, Azéline se retourna sur la taille de la jolie guêpe, hardiment pincée dans le remous d'une jupe indienne. Elle réprima un soupir en jetant un regard sur le rapiessage cousu au bas de sa propre robe. Elle se consola en se rappelant que ces reprisures constituaient les mémorables cicatrices de ce fameux jour où elle avait galopé à travers les ronces. Rassurée en constatant qu'à condition qu'elle bougeât sans cesse, sa réparation se remarquait pas trop, elle entreprit de poser 1000 questions à propos de la compagne de M. Aucquigny. Elle la trouvait si belle. Le vieux se fit tirer l'oreille avant de répondre. « J'aime pas bien faire le porte-paquet, » décréta-t-il. « Mettre mon nez grand dans le cambouis des gens, je connais pas bien. »«
Je répéterai rien, » promit la petite.
« Je suis ainsi dire un grand fermoir à secret. » Elle lui donna un bec sur la joue pour encourager son vieux, mais toujours il disait rien.
« Oh, please, dad, » supplia-t-elle. « Allez, cher conteur, fais pas languir. Pour une fois, je te demande un peu de parlementage. Rapporte-moi donc l'histoire de cette belle dame. »
Outside another yellow moon, as upon the wall in the night time, yes, I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Downtown trends are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylark crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of if I was the one, you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? Well, I see you tonight. What a downtown train. Every night it's just the same. You leave me lonely now. I'll never
stairs in your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Every night is just the same. Oh, baby, will I see you tonight? On a downtown train. Oh, I love my dreams, they fall like rain. Oh, baby, on a downtown train.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Un grand pas vers le bon Dieu, Jean Vautrin. Edius Requin finit par grognacier. Mais mon bébé, je veux pas. Laisse-moi aller. Miss Léola, la vie qu'elle fait, c'est des exemples pas bons pour toi. De plus en plus intriguée, Azeline finit par lui escouer le bras pour lui faire tenir des pommes. Non, non, gamine, protesta le vieux arbre. « Compte pas là-dessus. Mom, tu me connais, je suis pas un monde qui parle dans le dos. Je fais ma petite affaire tranquille et content, seul dans mon camp, c'est ça que je préfère. Personne à faim, ou chaud ou froid, en vie tout bien. On se fait pas d'ombre et je peux pas stander la cacasserie. » Comme leur échange tournait en chamaille, chacun est resté cloué sur son site. Azeline savait bien que c'était plus sage de fermer son bec que d'écharlanter ton voisin en revenant à la charge. Preuve qu'elle avait pas tort. Après un morne silence et Tinoir, qui trottait devant, Popraquin s'est détourné vers sa fille. « Qui c'est que tu brasses, mon petit oiseau bleu ?» il a demandé. « Nous autres, va tout de même pas traîner une dispute sur une affaire qui nous regarde pas. » La petite a continué à faire grise mine. Ça, le vieux crocodile, quand même, il avait la peau ferme. Il pouvait pas endurer bien longtemps. Il a fini par lâcher. « Soi-disant que Miss Léola serait une qualité de femme pas recommandable. Là. » Ensuite, colportant l'écho d'une rumeur tenace qu'il ne faisait pas sienne, Edius finit par raconter ce qu'il savait. Sans doute pour rabaisser l'éclat d'une beauté si dérangeante dans un village aussi petit, les mauvaises langues ragotaient que cette jolie femme, née Léola d'Ibreville, était la descendante par sa grand-mère d'une de ces carteronnes issues de l'alliance des gens de couleur libre avec des aristocrates. L'une de ces créatures qui peuvent avoir une proportion de sang noir très variable et ont une complexion aussi blanche que bien des hautains créoles. À ce qu'il paraît, lorsqu'elle dansait dans les bals masqués donnés par la noblaille, la grand-mère de Miss Léola avait les pieds si joliment tournés que les hommes se battaient pour les lui baiser. Soi-disant,
s'excita soudain le vieux bougre, emporté par son récit, qu'elle était capable d'une coquetterie tellement supérieure à celle des Blanches que les beaux messieurs l'avaient installée dans des meubles somptueux avec de la vaisselle d'or. Elle a coulé tous ses bons jours dans un palais. « Comme je te dis, » conclut-il malicieusement. Et elle n'a jamais eu besoin de changer de nom, pardi, vu qu'elle se louait à syllabes qui lui payait ses rideaux.
« Oh, je comprends comment qu'elle vivait, » dit finement Azeline. C'était en somme une personne bien à droite de sa vie.
« C'était une noceuse, witch, une putain, une biche, si tu préfères, » s'emporta Edius. « Une pas bonne qui vivait la nuit. »
Elle avait quand même trouvé une manière différente de gagner de l'argent sans se crever au travail, constata rêveusement la petite.
« Oui, elle a semé le malheur partout autour d'elle. Il y a eu 7 duels, à ce qu'on dit, pour ses yeux.
Et même après qu'il y a eu mort d'homme, en 2 ou 3 occasions. Les pivardés dont je te parle n'arrêtaient pas sa ronde. Elle encourageait un nouveau galant à lui faire sa cour, croquait tout son argent dans des fêtes, si bien qu'à ce gentil jeu-là, plus d'un gros Richard a fait banqueroute. »
Azeline baissa la tête.
« Et Léonade d'Ibreville ? » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Est-ce qu'elle a aussi une vie confortable ? Ses pieds mériteraient les mêmes hommages que ceux de sa grand-mère, je trouve. »
« Rabaisse ton caquet, petite criminelle. Justement, certains bambocheurs d'Issite prétendent qu'ils reconnaîtraient Miss Léola les yeux fermés. Rien qu'à la cambrure de ses pieds. Soi-disant qu'avant de fréquenter le jeune monsieur Occhigny, elle aurait pratiqué la dévergonde dans le vieux carré, comme son ancêtre. Commerce de charme, en autres mots. »
Azeline aurait aimé en savoir plus au sujet de Léola d'Ibreville. Mais par anticipation, Edius Raquin lui coupa net le sifflet, fit même un geste d'impatience avec la main qu'elle mette un terme à son bougali infernal. Marmonna dans son porte-pipe si les dames de la société du demi-monde l'intéressaient, qu'elle s'adresse donc à sa tante Nadée. Comme couturière et vaillante langue de vipère, la witch de la famille la conduirait plus sûrement que lui aux premières loges de la cancanerie.
Pour Azeline, le manque de nerfs qui venait de s'emparer des dieux Raquin s'expliquait autrement. Vu Castor, leur wagon s'apprêtait à passer devant l'office du shérif Vaughan. Comme ils s'approchaient, ils tombèrent sur un rassemblement de monde excité qui leur barrait presque la route. Une bande de jobbers pas trop propres et toujours à l'affût de 5 piastres qui font 20 pour terminer la semaine.
Edius remarqua Zaquet la Verdure. Piqué au premier rang, le grand mauvais de la clique des gros genoux était après juré un autre vaurien dans son genre. Ils se querellaient pour une histoire de prime avec des expressions imbattables.
Edius poussa doucement son cheval, obligeant les loafers les plus proches à s'écarter devant le poitrail de tinoir qui les partageait en 2 courants. Poursuivi par les invectives des uns et des autres, Azeline et Pop Raquin n'étaient pas extrêmement pharaux. Comme ils longeaient la galerie sans oser trop reluquer, ils virent sortir 3 adjoints du shérif, 3 députés supplémentaires dressés pour encadrer la milice. C'étaient des jeunes gars résous pour n'importe quel tuage. Ils s'étaient enfouraillés avec des fusils et paradaient comme des guignes, l'étoile de la loi épinglée sur le devant de leur chemise.
Derrière eux, Azeline reconnut 6 fois la même affiche. Un placard orné d'une image photographique qui proposait une sacrée reward à Scylla qui ramènerait la tête d'un homme « dead or alive ».
La petite voyait passer ça qui ressemblait à un cauchemar, le portrait d'un visage halluciné, 6 fois le même, 6 fois des yeux clairs qui la fixaient par derrière une forêt de bras poignant des armes. Au jugé, elle décompta un gang d'une cinquantaine de bons hommes. Si ça se trouve, une armée de sanguinaires venus là en espoir de toucher la récompense et poussant des clameurs. « Dead or alive !» Azeline était sûre de connaître pour qui cette chasse était destinée. « Dead or alive !» Tous ces macaques voulaient tuer son bel amour. Sans échanger un mot, le père et la fille poursuivirent leur chemin. Longtemps dans la distance, ils entendirent caqueter la rumeur de la foule. Puis, à un silence relatif, succéda un chapelet d'ordres, deux ou trois bâgueulements brefs et des exclamations. Une demi-douzaine de coups de feu ouvrit le ciel, et alors même que l'écho de leur tonnerre se répercutait à la face des maisons, Azeline rentra instinctivement la tête dans ses épaules. Elle claquait les dents malgré elle. Edius aurait voulu lancer son attelage sur le côté de la route, mais Tinoir, rendu ardent par l'attirail des revolvers, s'emportait la bouche pour avancer plus vite. Sa peur giguait dans la coupe blanche de ses yeux. Des ondoiements de nervosité attisaient ses flancs, les répercutaient tendus comme des câbles au piétinement de ses jambes. Le puissant cheval, corcorbiait des quatre fers, boletait. Il allait sur son aculoir et son bois de collier, pas loin, si ça continuait de prendre l'estampique et de partir au galop. Edius s'était dressé sur ses bottes, avait calé son pied droit et se raidissait sur le bridon pour essayer de maîtriser l'animal. Azeline, à demi retournée vers l'arrière, se tenait cramponnée aux ridelles du wagon. Elle poussa un cri de terreur en même temps que le sol sembla branler sous l'effet d'une trépidation sourde. Depuis l'extrémité de la rue, attisé par la folerie des hommes, ivre de manian et de whisky, un roulement de sabots s'enfla jusqu'à les submerger d'un mascaret de poussière, de chocs sourds et de jurons emportés par la violence du flot. Valdingué par le déferlement de la troupe lancée au galop, leur attelage sembla hésiter sur la direction à prendre, puis le cheval se cabra dans ses agrès et recula en hennissant. Ses yeux fous levés vers le ciel, il égrina tout le flanc de la voiture contre le mur de la maison la plus proche. Dans une gerbe d'étincelles, un éclatement du bois, le lourd wagon termina sa course à reculons en heurtant un second bâtiment et Tinoir s'arrêta enfin, l'écume aux morts, maîtrisée par la poigne d'un garçon de sang mêlé qui s'était porté à leur secours. Le visage encore plus sec que d'habitude, le vieux bougre descendit de son chariot, donna la piécette au jeune métis et but un verre d'eau qu'on lui tendait. Azeline restait assise sur le site qu'elle n'avait pas quitté. Elle regardait machinalement passer et repasser au-dessus de la tête l'insaisissable volettement vert bronze des oiseaux de pluie, une bande d'hirondelles des granges que le tintamarre avait dérangée. Edius, après avoir fait le tour de sa wagine pour voir si l'essieu avait pas fait naufrage en cours de collision, a fini par s'asseoir au ras d'un carré de jardin où potageaient des légumes colorés. Il avait l'air étourdi, moudu comme un grain. Il a porté avec lenteur ses mains en arrière de ses reins. Il a soupiré, peineux, jusque dans ses os. Une dame bien maisonnière avec une figure serviable, celle-là même qui lui avait donné à boire, s'est penchée sur sa pâleur extrême. « Est-ce que je peux vous aider, monsieur ?» Elle a demandé. « Voulez-vous vous reposer ?» Elle montrait sa porte ouverte. Elle habitait juste à côté. Edius n'a pas répondu à cette femme. Il est resté avec les yeux vitrés, la bouche ouverte. Il paraissait choqué. Alors la ménagère s'est fait du souci. Elle s'est tournée, embêtée aux entournures, vers ceux qui s'agglutinaient derrière elle, une ribambelle de figures de peau de chambre craquées, des gens utiles à rien faire. Elle a dit comme ça. « Ce pauvre Boug est loin de chez lui.
J'ai peur qu'il fasse un coup de sang. C'est chagrinant à voir. »
Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.